Henri Dideville, histoire vraie d'un fantôme. L'autre soir, dans un vieux château, la conversation va t'en tomber sur les apparitions, les revenants, les fantômes. Chacun se mit à conter son histoire, et insensiblement, les jeunes femmes se rapprochèrent les unes des autres. On les voyait, malgré elles, retourner la tête en frissonnant derrière leur fauteuil lorsque les récits devenaient trop palpitants. « Et vous, me dit-on, n'avez-vous pas dans votre vie une peinture, une histoire de revenant, une aventure de revenant ? Une histoire à faire frémir ? Allons, soyez indiscret et contez-nous quelque chose. » « Je veux bien, leur dis-je. Et puisque vous m'en priez, je vous raconterai un fait absolument vrai, qui m'est personnel, sur lequel je n'ai jamais ouvert la bouche, bien qu'il soit des plus étranges et des plus mystérieux. Il y a longtemps de cela, et je m'en souviens cependant comme si c'était hier. À la fin de l'automne de 1858, j'allais voir de mes amis, sous-préfet dans une petite ville du centre de la France, et depuis plusieurs mois, il me tourmentait tellement pour que je vinsse visiter son installation nouvelle que je me décidais à quitter Paris. C'était d'ailleurs un ami des plus intimes, un vieux compagnon d'enfance et de jeunesse. J'avais assisté à son mariage. Sa femme était charmante, de bonté et de grâce. Et le jeune ménage avait à me montrer son bonheur dans toute son intimité et de plus à me présenter aux deux jolies petites filles nées dans la résidence. Le Parisien fut fêté, choyé, ai-je besoin de le dire, et bientôt initié à tous les secrets de l'administration. 3 jours après mon arrivée, je connaissais la ville entière qu'on avait fait défiler pour moi dans le cabinet, dans le salon de la sous-préfecture. Quant aux curiosités du vieux château, aux ruines, aux fabriques, je les possédais à fond, bientôt. Cette besogne terminée, je priais mon ami de me laisser vivre plus calme. Et nous passâmes notre temps à deviser entre nous, sans le secours d'aucun administré. Chaque jour, vers 4 heures, A faisait atteler son phaéton pour faire une promenade, nous ne revenions en ville qu'à l'entrée de la nuit. Les environs de X furent bientôt épuisés. « Eh bien, demain, me dit un soir mon hôte, nous irons plus loin que d'habitude. Je veux te conduire aux pierres noires. Oh, ce sont d'anciens domaines fort curieux, situés dans les landes isolées et sauvages qui ne te déplairont sûrement pas. Ma femme ne les connaît pas encore. Je vous emmènerai. Nous l'emmènerons. » Le lendemain, nous partions à l'heure dite. Ah, conduisait sa jeune femme, était à ses côtés, et quant à moi, j'occupais seul la banquette de derrière. Nous n'étions accompagnés par aucun domestique afin de rester entre nous. Il faisait ce soir-là un temps gris et sombre. Le paysage, en effet, n'était point gai Et lorsque nous arrivâmes aux pierres noires, le jour commençait déjà à tomber. Nous mîmes pied à terre, en gardant les chevaux, et nous fîmes avec sa jeune femme quelques pas dans les champs pour aller voir de près les gigantesques vestiges de la religion des druides, de nos ancêtres. Ma compagne voulut gravir le sommet de l'Hôtel Gaulois. J'étais placé sur les dernières marches et je vois encore sa silhouette élégante drapée dans son grand châle rouge, son voile flottant autour d'elle. Comme c'est beau! Mais ne trouvez-vous point que tout cela est bien sinistre? Me dit-elle. En étendant la main vers la lande déserte et l'horizon sombre qu'éclairaient à peine les derniers rayons du soleil, le vent du midi soufflait avec violence et sifflait dans les arbres rabougris qui entouraient le dolmen. Pas une habitation, pas un être humain. Nous regagnâmes silencieusement et hâtant le pas la voiture. Il faut nous presser, dit A. Le ciel est menaçant. À peine aurons-nous le temps d'arriver à X avant la nuit noire. Nous enveloppâmes soigneusement les genoux de Malama de couverture. Elle ramena son voile sur son visage et les chevaux s'enlevèrent à grand trot. Le jour baissait, comme je l'ai dit, mais la nuit n'était pas encore venue. La route formait comme un long sillon clair dans la campagne. Quelques bouquets de sapins, çà et là, des genêts, mais aucune autre trace de végétation. Le froid ne tarda pas à nous saisir. Le vent sifflait avec fureur. On entendait seulement le trot cadencé des chevaux et le tintement strident de le clair de leurs grelots. Aucun de nous ne parlait. J'avais les bras accoudés sur le dossier de la banquette, ma tête appuyée contre les épaules de mon ami afin de me garantir du vent. Je pensais alors à quoi? Bien, à Paris, à notre jeunesse, s'est emporté par la folle du logis, et bien loin de X. Lorsque tout à coup, je sentis l'étreinte d'une main qui se crispait sur mon épaule, je tournai brusquement la tête, une horrible apparition se présenta à mes yeux. La place vide à mes côtés, une femme hideuse, décharnée, aux yeux sans globe, était assise. Je voulus pousser un cri, mais le fantôme plaça son doigt sur sa bouche pour m'interrompre et m'imposer le silence. Aucun son ne put sortir de ma gorge étranglée. La femme était vêtue d'une sorte de vêtement de laine blanche, la tête encapuchonnée, la face était de la couleur livide d'un cadavre et ses yeux de trous noirs. Je demeurai immobile, haletant, éperdu de rage et de terreur, lorsque le fantôme, s'étant dressé et se baissant sur la jeune femme, l'entoura entièrement de ses bras, se pencha sa tête hideuse comme pour l'embrasser au front. Oh, mon Dieu, le vent, le vent! S'écria Madame Mara, en se reproche, retournant avec précipitation. Oh, vers moi, son voile, mon voile se déchire! À l'instant même où la jeune femme se retournait, je sentis la même étreinte infernale de tout à l'heure se crisper sur mon épaule. La place occupée par le fantôme était vide. Je me levai aussitôt, me penchant à droite et à gauche, j'interrogeai avidement l'espace. Rien, absolument rien. La route déserte, pas un être vivant, pas un objet. Mais quelle épouvantable rafale! S'écria Madame Ma. Ah, monsieur, l'avez-vous senti? Oh, je ne sais quelle terreur m'a saisi. Mon voile a été arraché par le vent, comme par une main invisible. Oh, j'en tremble encore. C'est bien, dit en riant monsieur A. Et enveloppez-vous, ma chère enfant. Nous allons nous réchauffer au bon feu de la sous-préfecture. Je meurs de faim. Une sueur froide m'était montée au front. Je sentais le frisson qui parcourait mes membres. Ma langue, attachée à mon palais, dans ma bouche desséchée, ne pouvait articuler un seul son. Une douleur cuisante à l'épaule était le seul vestige sensible qui resta d'une façon bien évidente, si évidente que je ne pouvais n'était point le jouet d'une hallucination. Et en portant la main à l'endroit où je souffrais, mes doigts sentirent des déchirures aux plaies dont mes épaules étaient enveloppées. Je regardais l'étoffe, 5 trous parfaitement distincts attestaient la trace palpable et visible de la crispation de l'horrible fantôme. Je crus un instant que j'allais mourir ou que la folie s'emparait de moi. Oh, ce fut, je crois, un des moments les plus épouvantables de ma vie. Enfin, le calme revint. Cette angoisse sans nom n'a fait durer que quelques minutes. Mais je ne pense pas qu'il soit possible à une créature humaine de souffrir plus que je n'ai souffert pendant ce laps de temps. Dès que j'eus repris mes sens et que je me trouvai en possession de la réalité, j'eus immédiatement la pensée de raconter à mes compagnons ce qui s'était passé. Mais j'hésitais et je m'abstins, dans la crainte de jeter l'effroi dans l'esprit de la jeune femme qui n'avait rien vu. Et en même temps, j'eus la pensée que, certainement, mon ami se refuserait à croire, me prendrait pour un fou. Et en apercevant les premières lumières de la petite ville X et le flèche de son église, il me sembla renaître. Peu à peu, l'oppression de terreur qui m'avait envahi commença à se dissiper. Et à peine arrivée, Madame de A s'empressa de retirer son chapeau et de détacher son voile qui était littéralement en loques. Elle me le montra en riant, ayant déjà oublié la légère impression d'effroi qu'il avait saisi. Quant à moi, j'étais toujours dominé par l'apparition. Nous mîmes à table, et après le dîner, je prétextais un violent mal de tête et me retirais chez moi. J'avais hâte de regarder de près, de palper les trous du plaid. En montant l'escalier, au moment d'ouvrir la porte de ma chambre, j'espérais que mon imagination seule m'avait fait apercevoir la marque des 5 doigts du fantôme et que j'allais trouver des vêtements intacts. Les 5 couvertures étaient là, très apparentes et très visibles. L'étoffe parfaitement déchirée en 5 endroits, à la place même où les doigts s'étaient crispés sur mon épaule. Aucune trace cependant sur ma chair, seulement une douleur sourde. Je partis le lendemain pour Paris et j'oubliais cette aventure étrange. Chaque fois du moins que j'y pensais, ma pensée s'y reportait à cette soirée. Je l'éloignais avec soin et m'efforçais de la réduire à une hallucination. Dans le courant de l'année, je quittai définitivement la France et fus nommé secrétaire dans une ambassade en Italie. Et au mois d'octobre de l'année suivante, je reçus une lettre timbré de X, mon malheureux ami, dans une lettre folle, désespérée, m'annonçait la mort de sa femme et me rappelait, en terminant notre gai séjour à X. Je comparais les dates. Une année, jour pour jour, s'était écoulée depuis la visite aux pierres noires.